Il est l'heure. Ne lui en déplaise, le nom de Mark Knopfler, 51 ans, est indissociable de celui de Dire Straits. Créateur, compositeur, chanteur et guitariste virtuose du plus gros groupe de rock des années 80, Mark Knopfler a pourtant choisi, il y a 5 ans, de mettre son bulldozer au garage et de commencer une carrière solo. Il vient de sortir son deuxième album solo qui s'appelle Sailing to Philadelphia. Bonsoir, monsieur Knopfler.
Hello.
Bonsoir.
Le single qui sort de Sailing to Philadelphia s'appelle What It Is et il pourrait être musicalement extrait d'un album de Dire Straits. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau-là et pas un autre morceau de l'album alors que sur Sailing to Philadelphia, il y a des morceaux très différents de cet esprit-là?
Yeah, it's a record company choice.
Bah, c'est un choix de la maison de disques. Ce qui s'est passé, c'est que je jouais sur cet instrument, le Stratocaster, et puis c'est la raison pour laquelle ils ont choisi la maison de disques s'est dit, ça va faire vendre les disques si on met ce titre-là en premier choix. Mais moi, ma pensée n'est pas celle d'une maison de disques. Je ne pense pas pareil qu'eux. Et je ne me préoccupe pas tellement des singles, de ce qui va marcher commercialement au premier chef, disons. Cela étant, c'est ce qui fait vendre les disques, effectivement, dans toute l'Europe. Donc, ce qui veut dire que je peux partir en tournée, ça me fait plaisir.
Donc, vous allez tourner avec Sailing to Philadelphia?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, toute l'idée était là. L'idée, c'était qu'il y a un enchaînement d'événements, disons. D'abord, j'écris la chanson. Ensuite, je l'enregistre. Et puis après, je pars en tournée pour le public.
Le classique rock'n'roll. Un petit extrait, très très vite, pour vous donner l'idée et l'ambiance. Un petit extrait de ce single qui s'appelle « What It Is ».
Glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now.
Alors ce nouvel album, Sailing to Philadelphia, sort en 3 versions différentes. Il y a une version pour l'Amérique du Nord, il y a une version pour le Royaume-Uni et il y a une version pour le reste du monde, dont la France. Par exemple, nous, les Français, on a un morceau de moins que sur la version britannique. Pourquoi il y a 3 versions de l'album?
C'est ce que la maison de disque m'a dit. La dernière fois qu'on a fait les mêmes disques, je crois qu'il y a un rapport avec le taux de change avec l'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait vendre les exportations de disques, je ne sais pas. Tout le monde veut acheter la version importée. C'est ça qui fait, grâce au taux de change, ça fait rentrer les devises au Royaume-Uni. Je crois que c'était ça l'idée. Ou bien c'était moins cher là-bas, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils ont cru pouvoir tromper le public avec ce système-là. Enfin, c'est une chanson ou deux en moins, ça n'a pas grande importance.
Alors, parmi les fans de Dire Straits qui aurait pu se faire des illusions, ce deuxième album confirme qu'a priori la page est tournée, alors que c'est un groupe qui quand même en une dizaine d'années a vendu plus de 100 millions d'albums, donc en un temps assez limité finalement. Regardez avec Vanessa Boersma.
En 10 ans, voilà ce qui est devenu Dire Straits, un groupe de rock légendaire au succès planétaire. On est loin de 77 où Knopfler, son frère et un ami composent Sultans of Swing dans un appart miteux du sud londonien. Il crée alors un son nouveau, littéralement opposé à la vague punk qui fait rage à l'époque, et ça marche. Le fameux jeu de guitare knopflerien trouve rapidement son public.
They've gone from playing sort of like 300 people or less to playing to headlining shows to 60,000 people within 18 months.
Dire Straits, devenu alors une gigantesque machine commerciale, matraque les chaînes musicales de clips ultra chers. Leur interminable tournée génère des millions de dollars et le groupe devient le fer de lance du compact disc dont ils sont les plus gros vendeurs. Au bout de 6 albums, Knopfler, lassé des grosses productions commerciales, navigue désormais en solo. Il écrit quelques musiques de films, dont celle des hommes d'influence. Il côtoie les plus grands noms comme Dylan ou Clapton et crée un nouveau groupe avec ses vieux potes anglais, les Notting Hill Billies.
can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way.
Aujourd'hui, Knopfler sort son deuxième album solo, Sailing to Philadelphia. Le premier Golden Heart avait reçu un accueil mitigé. Une notoriété plus modeste souhaitée par un homme qui aspire désormais à la tranquillité.
Donc c'est pour ça que vous avez arrêté? C'est pour être plus peinard, plus tranquille?
No, not exactly.
Mais non, pas exactement. Pas, disons, la tranquillité en tant que telle. Ce qu'il y a, c'est que je voulais être plus souple, plus mobile, enfin, avoir la possibilité de donner aux chansons d'avoir plus de vocabulaire, par exemple, plus de choix, plus de voix qui interviennent. Et puis, il faut bien voir que dans une chanson, ça commence au départ, finalement, par moi qui suis vautré sur un sofa avec un carnet, j'écris quelques notes. Et puis, bon, après, ça évolue, mais c'est une très, très grosse machine, quand même, Dire Straits. J'ai voulu m'éloigner un peu de tout ça, prendre du recul et vraiment faire de la musique. Je crois que c'est là le problème.
Qu'est-ce qui vous pesait là-dedans? C'était le fait qu'il n'y avait plus vraiment de temps pour la musique? Il fallait s'occuper tout le temps de la machine elle-même, le business lui-même?
C'est vrai, c'était peut-être pas le business en tant que tel qui me posait problème, puisque je m'en occupais pas vraiment non plus. Non, en fait, le vrai problème, les tournées par exemple, c'était d'immenses tournées. Bon, j'avais l'impression d'être toujours sur la route, toujours en train de courir. Et puis, ne serait-ce que parce que ces tournées étaient tellement phénoménales en ampleur, il y avait. C'était. Bon, par exemple, il fallait. Écrire avec l'équipe de Star Trek, ou ensuite il fallait faire des gros concerts avec plein de monde. On ne pouvait plus être près du public, ni même de l'équipe technique, parce qu'il y avait trop de monde. Et ces gens-là, c'était mes copains, les gens de l'équipe, de l'entourage. Quand on est trop nombreux, il y a plein de monde, il y a des tas de gens, je ne sais pas, qu'on ne connaît plus. Et puis on se dit non, ça ne va plus, c'est-à-dire que c'est pas ma faute d'abord, cette machine s'est emballée, j'en suis pas responsable, mais en fait j'étais responsable.
Depuis la fin de Dire Straits, vous avez fait des musiques de films, vous avez fait des concerts de charité, vous avez joué sur les albums des autres, éventuellement vous en avez produit, vous avez fait vos albums solo, là c'est le deuxième. Est-ce que pour vous c'est la recherche de l'après Dire Straits idéal, ou est-ce qu'au contraire c'est comme ça que vous voyez la suite, avec une diversité d'activités?
En fait, il y a eu plus de diversité par le passé quand on y pense. Parce que la production prend trop longtemps avec les grosses machines. Mais par exemple, j'ai fait des musiques de films. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. D'abord, ça m'oblige à me présenter, à me pointer. Il faut que je sois là, il faut que je travaille. C'est un travail qui doit être fait dans un certain délai.
Pourquoi sinon vous êtes un peu vous laisser traîner?
Il y a un peu de ça, oui. J'aurais peut-être tendance à faire de la moto, à me balader, à déjeuner, je ne sais pas. Disons que
mon amour, c'est la chanson.
Moi, mon amour, c'est la chanson. C'est-à-dire, c'est mon premier amour. Cela dit, c'est une affaire assez solitaire, le fait d'écrire les chansons. Et si je ne faisais que ça, si je ne faisais qu'écrire des chansons, je crois que, bon, j'irais me déconner un peu à côté parce que j'en aurais marre. Alors que là, un film, bon, je dois aller quelque part, à un endroit où je n'irais pas normalement. Et après tout, ça rend la vie un peu plus intéressante. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a pris tellement de temps à faire ce disque, parce que je faisais d'autres choses. Je fais une ou deux chansons, ensuite je fais une BO d'un film, ensuite une autre chanson, et ainsi de suite. Et en fait, les musiques de films me donnent envie de faire des chansons. Et alors c'est là que ça me donne l'appétit pour écrire une chanson, et ainsi de suite.
Sur Sailing to Philadelphia, il y a des invités de marque. Par exemple, il y a Van Morrison, il y a James Taylor. C'est les invités que vous avez fait venir sur cet album, ça correspond totalement à votre univers musical, ou c'était la recherche d'autre chose, de quelque chose de nouveau pour vous?
Pour ce qui est de James Taylor, je ne savais pas exactement, enfin, je ne connaissais pas tellement ce qu'il avait fait. Je connaissais sa musique du début, disons. J'avais pensé à lui très tôt quand même, parce qu'on avait quand même travaillé ensemble, on avait fait un ou deux trucs, il m'avait demandé de participer à à des séances avec lui. En fait, on s'est rencontrés sur une piste de ski en France. Ça n'a rien à voir, mais disons que lui, il aime le ski de fond, et moi j'aime bien faire du ski alpin, me planter en ski alpin plus précisément. Et je me suis dit qu'il serait très bien pour jouer le personnage qui est présenté dans la chanson. Lui, c'est un petit peu comme justement travailler comme pour un film. Alors qu'avec Van Morrison, bon là j'ai toujours été un super fan de Van Morrison depuis que je suis gamin, pratiquement. Alors, pendant que j'écrivais la chanson, enfin, cela étant, on a travaillé ensemble dans les années 80, je suis allé à San Francisco, on a fait des choses ensemble. Toujours est-il qu'en écrivant cette chanson, j'avais la voix de Van Morrison à la tête, à l'esprit, et lorsque je l'ai rencontré, il a pris la chanson,
Quel est votre morceau préféré sur Sailing to Philadelphia?
I like Baloney Again.
Baloney Again, ça c'est celui que j'aime le plus. Disons que c'est un morceau qui me plaît bien. Le but du jeu, je crois, dans cette affaire, c'est d'écrire quelque chose qu'on aime entendre soi-même. Et j'aime bien écrire des chansons que j'aime entendre sans me sauver.
Ça tombe bien parce que on va se déplacer, on va aller sur la scène de NPA Live, et c'est exactement ce que Mark Knopfler va jouer ce soir. Baloney Again, juste pour info, c'est quoi votre...
Vous en aurez une version abrégée.
Un essai. Par curiosité, c'est quoi votre morceau préféré de Dire Straits?
J'aime beaucoup les vieilles chansons.
Juste un.
Live,
Romeo and Juliet. Ah, ça, je crois que c'est mon
Romeo et Juliet, c'était sur l'album Making Movies, qui, si je me souviens bien, devait être le troisième album de Dire Straits. Merci beaucoup, Mark Knopfler.
Vous êtes expert, dis donc.
De rien. On va se déplacer, on va y aller, on va partir vers le studio, on va aller jouer live. Merci beaucoup, Mark Knopfler. Dans un instant, la pub, le 20 H20 de Moustique.
Merci,
et.
Attends,
oui, prenez tout. Et Mark Knopfler en live dans NPA. Allons-y.